Les orages maléfiques, chapitre 40. Les trombes d'eau s'abattirent sur le pays. À la télévision, la météo montrait les milliers de points, chacun représentant un impact de foudre. La carte, constellée par ces orages, incitait à la plus grande prudence. La présentatrice insista beaucoup en déconseillant aux automobilistes de prendre la route. La situation empira d'heure en heure. Des arbres se couchèrent sur les chaussées. Les coulées de boue emportèrent des maisons. La France ressemblait à un paysage d'apocalypse. Les mises en garde ne suffirent pas. Des imprudents jouèrent avec la vie, et à ce jeu-là, il y eut de nombreux perdants. Le cadet décida de se rendre chez des amis. Il voulait honorer une invitation acceptée de longue date. La famille prit place dans le monospace. Les filles, vêtues de blanc, chantaient. La maman poussait la chansonnette qu'elle reprenait en chœur. Le pilote s'engagea sur une route de montagne. Les éclairs zébraient le ciel et la foudre s'abattit à quelques mètres d'eux dans un vacarme assourdissant. Ils virent une boule de feu embraser un sapin. Le spectacle était dantesque. Les filles se turent, la peur au ventre, tandis que les parents parlaient pour apaiser leur progéniture et se rassurer eux-mêmes. Dans un virage, tout bascula. Un véhicule descendait. Le conducteur, perdant le contrôle dans une petite coulée de boue qui traversait la chaussée, percuta la voiture montante, qui tourna comme une toupie avant de basculer dans le vide. Tel un pantin désarticulé, le monospace rebondit sur les rochers, puis se fracassa au fond du ravin. Le chauffard continua sa route dans la nuit, indifférent au drame qu'il venait de provoquer. Ce ne fut qu'au matin qu'un automobiliste alerta les secours. La pluie et le relief rendaient le travail des sauveteurs difficile. Ils durent s'encorder pour pouvoir atteindre la carcasse disloquée. Des blocs instables menaçaient de se détacher et de les écraser à tout moment. Il leur fallut plus de 3 heures pour se trouver enfin au fond du ravin. Ils constatèrent le décès de la femme assise aux côtés du conducteur, ce dernier gisant affalé sur le volant. À l'arrière, 2 gamines émettaient de faibles râles, voguant entre la vie et la mort. Les pompiers mirent longtemps pour procéder au découpage des tôles. Il fallait faire attention à ne pas aggraver l'état des blessés. Ils remontèrent les jeunes sœurs avant de s'occuper du chauffeur. Lorsqu'ils entreprirent de le dégager, il avait cessé de vivre. Pendant qu'une ambulance emmenait les enfants vers l'hôpital le plus proche, une autre acheminait les époux vers la morgue. Les orages maléfiques venaient de décimer un foyer qui voulait croquer la vie à pleines dents. Les médecins se relayèrent pendant des heures au chevet des gosses. Ils ne lâchaient pas. Ils voulaient les sortir de ce mauvais pas. Malgré tous ses efforts, l'aîné lâcha prise la première, son petit corps meurtri demandant grâce. La Benjamine en fit de même quelques minutes plus tard. Le personnel médical, anéanti, perdait une nouvelle bataille. La faucheuse leur avait brûlé la politesse. Le téléphone sonna en début d'après-midi chez le père. C'était le centre hospitalier qui l'informait de l'accident. Son interlocuteur lui dit que c'était important, mais ne lui précisa pas la nature des blessures, et encore moins qu'il se trouvait réuni à la morgue, dans 4 tiroirs adjacents. Il eut un pressentiment. Il se mit au volant tel un automate. La pluie continuait de gronder dans les torrents et d'inonder les plaines. Lorsqu'il se présenta au centre hospitalier, il fut reçu par le médecin responsable du service des urgences. L'homme, rompu au contexte, ne put tergiverser. Son interlocuteur exigeait de voir les siens. Un grand silence succéda à sa demande. En 1 millième de seconde, il comprit que tout avait basculé. Le praticien l'accompagna au sous-sol où reposaient les dépouilles des victimes de l'orage maléfique. L'employé, affecté à la besogne, tira les 4 tiroirs. Il voyait sa belle-fille qui lui souriait. Il lui parla, et n'obtint pour toute réponse qu'un sourire figé pour l'éternité. Son fils semblait dormir. Il l'embrassa, et lui dit qu'ils se retrouveraient tous bientôt. Il se pencha enfin vers ces deux rayons de soleil. Il lui en voulait énormément à l'astre solaire. Il n'admettait pas de voir s'éteindre de si jolies minois. Elles étaient resplendissantes dans leurs robes blanches. Seul un filet de sang séché subsistait dans le cou de la cadette. Il resta prostré longtemps, longtemps. Le préposé, habitué aux multiples détresses qui se succédaient devant lui, patientait à l'extrémité du local. Il respectait l'intimité et la douleur des visiteurs. Il lui fallait maintenant rejoindre les services administratifs afin de procéder aux formalités d'usage et se rendre à la gendarmerie afin de récupérer les affaires de son fils. Il errait dans les couloirs tel un zombie. Plus rien n'aurait de sens désormais, il avait tout perdu. Il se retrouva à l'extérieur, prit son téléphone portable et appela son fils aîné. L'accueil fut glacial. Il n'en prit pas ombrage. Il se contenta de lui expliquer le malheur qui les frappait à nouveau. Le fils ne fit aucun commentaire, ne demanda rien. Le père l'embrassa et raccrocha. Malgré son apparente indifférence, il l'appellerait pour l'informer de la date des obsèques. Il devait d'abord contacter la mère de Maureen et décider de la cérémonie funèbre. Cette dernière, assommée par la nouvelle, lui donna carte blanche et ils convinrent d'une crémation dans 3 jours. Il ne put joindre le fils aîné, tombant chaque fois sur le répondeur. Il finit par laisser plusieurs messages avec toutes les informations sur les lieux et dates des funérailles. Il passa voir à plusieurs reprises ses défunts. Des larmes sèches obstruaient son regard. Il clignait des paupières et fixait intensément ses trésors endormis. Il dut enfin se résoudre à voir coulisser le couvercle en bois sur ses visages enfantins. Leurs chevelures rousses illuminaient le satin blanc de leur lit mortuaire. La crémation se déroula très simplement. Quelques parents de Maureen entouraient sa mère durement éprouvée. Il se joignit à eux, car le fils aîné ne s'était pas déplacé et ne l'avait même pas appelé. Il ne comprenait pas sa volonté de détruire, de faire mal au moment le plus difficile. Il encaissait un coup de plus. Il lut un poème qu'il avait composé en l'honneur de ses petites filles, de la musique irlandaise jouée en sourdine. L'assistance se recueillit, une trappe s'ouvrit, puis les cercueils glissèrent de l'autre côté, jusqu'au dernier. L'ouverture se referma. Ils restèrent quelques minutes. La musique s'était arrêtée, mais ils entendaient le bruit des brûleurs du four. Cela ressemblait à un crépitement. Il n'osa pas imaginer ses trésors rongés par les flammes. Il était en déraison, rien ne le concernait plus. Comme il aurait voulu être à leur place, pour rejoindre sa bien-aimée. Les orages maléfiques, associés au destin, en avaient décidé tout autrement. Il regagna sa maison, qui résonnait de l'absence des êtres chers, se demandant à quoi avait servi sa vie. Il subsistait sur un champ de ruines, jusqu'à son fils aîné qui le rejetait. Il songea à mettre un terme à ses jours. L'instinct de survie l'empêcha d'accomplir le geste ultime.